This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Salut, c'est Victoire Tuillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 milieux sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant, et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 milieux sous ma chair, dans Le cœur sur la table.
Salut, c'est Thomas Rozek. La vie publique américaine m'a toujours fasciné. Sans doute le fait d'avoir mangé des heures de films et de séries télé où elle est représentée, dramatisée à l'extrême, n'est pas étranger à cette passion bien particulière. Mais une chose est sûre, j'ai beau avoir vu toutes les saisons de The West Wing et de House of Cards, c'est loin d'être suffisant pour saisir totalement les rouages précis de la politique et de la justice aux États-Unis. Car vu de notre côté de l'Atlantique, avec notre propension à tout ramener à notre modèle démocratique, le fonctionnement américain peut sembler excessivement obscur. Même sur des questions aussi fondamentales que le droit à l'avortement, aujourd'hui clairement menacé dans le pays depuis que l'Alabama a voté une loi criminalisant à peu près complètement l'IVG. La crainte désormais des progressistes, c'est de voir la Cour suprême, majoritairement conservatrice, s'emparer de la question et revenir au niveau national sur le droit à l'avortement. C'est là qu'on en revient à ma remarque initiale. Même si on a la sensation, à force de connaître et de comprendre cette institution et son poids, bien des subtilités nous échappent, d'où notre envie de lui consacrer notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Évidemment, pour aborder cette question en détail, il nous fallait une spécialiste incontestable et nous l'avons trouvée en la personne d'Anne Desine, juriste, spécialiste du droit et de la politique américaine, professeure émérite à l'Université Paris-Ouest Nanterre. Elle a surtout signé le livre La Cour suprême des États-Unis en 2015 aux éditions Dalloz. Pour démarrer notre discussion, je lui ai demandé tout simplement ce qui faisait la spécificité de la Cour suprême dans la vie publique américaine.
En fait, la Cour suprême en France, elle est fantasmée, en premier lieu par les membres du Conseil constitutionnel qui se verraient bien un jour être une Cour suprême. Oui. Mais ce n'est pas possible pour une raison assez simple, c'est que la Cour suprême des États-Unis, c'est à la fois la Cour de cassation, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel et les deux cours européennes. Parce qu'il y a une interaction. Quand la Cour européenne des droits de l'homme dit que tel droit n'est pas respecté, cela veut dire que la décision française est mise en cause. Oui. Donc c'est tout ça. La Cour suprême. Et elle a, en raison du fait qu'elle conjugue tous ses pouvoirs, ça veut dire qu'elle peut à la fois déclarer qu'une loi du Congrès n'est pas conforme à la Constitution. Bon, ça, c'est relativement compréhensible en Europe. Mais elle peut aussi dire qu'un acte du président est en violation de la Constitution. Mmh. Et c'est à cause de cela que le président Nixon était prêt d'être mis en accusation et qu'il a dû démissionner. Donc elle a d'énormes pouvoirs, mais en revanche, elle ne peut pas agir toute seule. Elle a besoin quand même de ne pas se mettre à dos, j'ouvre et je ferme les guillemets, l'exécutif et le pouvoir législatif.
Oui, c'est ça, c'est ce qu'on se disait juste avant de commencer l'enregistrement. Elle ne peut pas se permettre d'être à la fois trop en avance ou trop en retard sur l'opinion également.
Oui, alors il y a les deux idées. Lorsqu'elle a rendu sa décision Brown versus Board of Education en 1954, disant, opérant un revirement de jurisprudence par rapport à une décision de la fin du siècle précédent, elle a dit « la ségrégation est une violation de la Constitution et de la clause d'égale protection de la loi ». 1954, Mais tant que le président n'a pas envoyé les troupes à Little Rock, dans l'Arkansas, et tant que le Congrès, en 1964 et 1965, n'a pas voté deux lois, la loi sur les droits civiques et la loi sur le droit de vote, il ne s'est rien passé. Donc, toute seule, elle ne peut pas grand-chose. Mmh. Et vous avez raison, si elle est trop en avance, ça suscite des tollés. Et on peut juger, nous y reviendrons, mais que la décision Roe versus Wade sur l'avortement était trop en avance sur l'opinion publique. En revanche, lorsqu'elle a décidé de valider le mariage gay, le mariage homosexuel, l'opinion avait considérablement évolué dans les États et l'opinion publique en général, ce qui fait que cette décision, qui a été très très mal reçue par la droite, c'est clair, a été bien reçue dans l'opinion publique. Elle était prête pour cela. Donc ceci aussi, c'est une limitation sur les pouvoirs de la Cour suprême.
On la fantasme aussi parce qu'on comprend peut-être assez mal son fonctionnement structurel. Elle est composée comment ? C'est quoi les processus de sa mise en action quelque part ? Parce que vous dites qu'elle ne peut pas se saisir toute seule d'un dossier. Comment est-ce qu'elle fonctionne tout simplement, cette Cour suprême ?
Alors c'est un des éléments de sa puissance. Il y a des limites, mais il y a beaucoup de puissance. Les limites, c'est qu'il faut que ce soit une question fédérale. Il faut qu'il y ait un contentieux. Elle ne peut pas tout d'un coup dire « Ah tiens, ça c'est intéressant, je vais m'y intéresser ». Donc il y a un certain nombre de règles, en particulier une règle un peu technique qui s'appelle « standing » en anglais et « intérêt à agir » en français, qui veut que le justiciable ou le requérant qui porte l'affaire devant les juridictions et devant la Cour suprême justifie qu'il a bien intérêt à agir. Mmh. Là encore, qu'il va être impacté par ce qui se passe et que par conséquent, il cherche un recours et il cherche une réparation. Sinon, pas de possibilité d'action. Mais la grande force de la Cour suprême, et c'est une différence avec la Cour de cassation, qui elle aussi fantasme sur la Cour suprême, c'est qu'elle choisit ses affaires. Il y a à peu près les 8000 pourvois en cassation, enfin l'équivalent, ce qu'on appelle des writs of certiorari. Et sur ces 8000, elle en prend entre 75 et 80. Donc elle choisit vraiment les affaires qui lui paraissent importantes, les affaires dans lesquelles il y a ce qu'on appelle « split circuit », c'est-à-dire, mettons, une cour d'appel qui a jugé dans un sens et une autre cour d'appel dans l'autre sens. Donc il lui incombe à elle, qui est au-dessus, de dire ce qu'est le droit et de rendre une décision. Mais elle choisit. Donc elle peut très bien, et elle l'a fait pendant certaines périodes, dire « affirmative action », ces politiques volontaristes en disant « on va prendre des minorités », je ne suis pas tout à fait mûre, et elle n'acceptait aucune affaire pendant 10 ans. Voyez. Donc le fait qu'une affaire soit portée devant la Cour ne veut pas dire qu'elle sera acceptée. Il faut que 4 juges décident de la prendre, et ensuite, pour qu'il y ait un changement, qu'il y ait une décision, il faudra qu'il y ait une majorité de 5 juges.
Elle est composée de 9 juges, cette Cour, enfin 8 juges plus un président. En ce moment, quelle est sa composition ?
Alors, le chiffre de 9 juges ne figure pas dans la Constitution. Je le mentionne parce qu'il y a tellement de problèmes avec sa composition actuelle que certains disent qu'il faudrait peut-être augmenter sa composition et faire en sorte que chaque président ait le droit de nommer 2 juges, au lieu que ce soit une loterie en fonction des décès et des démissions. Donc, simplement la parenthèse. Actuellement, sur les 9 juges, et ça, c'est depuis Trump, il y a une majorité solide de 5 conservateurs. C'est pour ça que les progressistes sont si inquiets. Ça n'a pas été le cas tout de suite. Si à grands pas, on retrace les dernières décennies, on peut dire que dans les années 50-60, la Cour était progressiste. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu la décision Brown, déségrégation, la décision Roe, droit à l'avortement, et beaucoup d'autres, en matière de pénale, de procédure pénale, par exemple. Puis petit à petit, mais ce n'est pas un hasard, c'est parce que l'Amérique devenait plus conservatrice, les présidents étaient républicains, et donc la coloration de la Cour, la coloration générale, est devenue plus conservatrice. Mais, et là il y a 2 dates qui sont importantes, il y a toujours eu, jusqu'à il y a 1 an, ce qu'on appelait un juge pivot. Alors l'un d'entre eux, c'était une femme, Sandra Day O'Connor, la première femme nommée à la Cour suprême par Reagan en 1981. Elle était conservatrice, elle était entre guillemets républicaine. Elle a par exemple voté pour donner la présidence à Bush dans le fiasco Imbroglio de Floride. Mais sur des questions plus sociétales, elle votait avec les progressistes. Pour tout un tas de raisons, elle a quitté son poste en 2006 et a été remplacée par un vrai conservateur, très très conservateur et originaliste, qui s'appelle Alito. Donc, premier problème. Et là, quelqu'un qui n'était pas trop un juge pivot est devenu juge pivot à son tour. C'est le juge Kennedy, qui, de 2006 à 2017, a fait la même chose que se faisait Sandra Day O'Connor. Elle votait avec la droite sur certaines affaires Et avec les progressistes, en particulier le mariage homosexuel, c'est grâce à sa cinquième voie. Affirmative action, donc les politiques préférentielles sauvées, c'est grâce à Kennedy. Et il était aussi très actif en matière de peine de mort, essayant de limiter l'ampleur, le champ d'application de la peine de mort. Bon, il part il n'y a pas longtemps et il est remplacé par Kavanaugh. Kavanaugh, c'est le monsieur qui a fait les grands titres pour harcèlement sexuel et dont on connaît les positions très à droite.
In keeping with President Reagan's legacy, I do not ask about a nominee's personal opinions. What matters is not a judge's political views, but whether they can set aside those views to do what the law and the Constitution require. I am pleased to say that I have found, without doubt, such a person. Tonight, it is my honor and privilege to announce that I will nominate Judge Brett Kavanaugh to the United States Supreme Court.
Donc, nous avons maintenant cinq personnes très à droite, plutôt jeunes, et quatre progressistes plutôt âgés. Donc, sans faire du feuilleton, il y a beaucoup de progressistes qui sont suspendus à l'état de santé de l'une des juges, Justice Ginsburg, qui est une icône, une star. Il y a des comédies musicales, il y a des expositions à son sujet, parce qu'elle a un âge très avancé, elle a déjà eu deux ou trois cancers, et surtout quand on la voit, elle doit mesurer 1m50 et peser 42 kilos, c'est-à-dire qu'on a peur qu'une pichenette la fasse tomber. Or, c'est un esprit extrêmement acéré, elle a contribué pour beaucoup à la production de ces décisions progressistes. Si elle venait à mourir tant que Trump est au pouvoir, la Cour suprême a dorénavant une majorité de 6 juges très conservateurs. Et c'est tout l'avenir des droits et libertés aux États-Unis qui est en jeu.
Il y a un droit dont on parle beaucoup en ce moment aux États-Unis et donc forcément en France, partout en Europe, c'est le droit à l'avortement, qui est remis en question. Alors ça part pour l'instant des États du Sud, de l'Alabama et du Missouri maintenant. Ce droit à l'avortement, il s'est construit en grande partie grâce à la Cour suprême et grâce à un arrêt qui a été décisif dans l'histoire des États-Unis, c'est l'arrêt Roe versus Wade. Est-ce qu'on peut raconter un peu de quoi il s'agit ?
Alors, première idée, le droit de l'avortement, il n'y a rien du tout dans la Constitution à ce sujet. Et comme ça touche à l'individu, ça relève plutôt du droit des États. Donc, dans un monde idéal, les progressistes espéraient que les États feraient émerger un droit à l'avortement, ce qui ne s'est pas produit. Donc ils ont profité de ce qu'ils étaient majoritaires à la Cour suprême pour faire une sorte de coup d'État et de déclarer, de trouver dans la Constitution, dans ce qu'on appelle les droits non énumérés, ce droit à l'avortement. Simplement, l'opinion n'était pas mûre et cela vraiment créé un tollé. Et l'opinion est toujours aujourd'hui, donc plus de 50 ans après, divisée sur cette question, de façon telle qu'il est presque impossible d'obtenir des vues un petit peu calmes, modérées ou des situations de compromis. Et c'est un des inconvénients d'agir par la voie juridictionnelle, c'est que tout de suite, c'est noir, blanc, les bons, les méchants. Alors que ceux qui prônent la voie politique disent c'est compliqué, ça prend du temps, c'est un petit peu sale comme la production de saucisses, mais on est obligé de faire des compromis et a priori le résultat est plus satisfaisant. Donc depuis 1973, les conservateurs sont vent debout contre cette décision et ils font tout ce qu'ils peuvent. Et ils ont réussi parce que ce qu'on ne dit pas trop actuellement concernant ce qui se passe dans l'Alabama, c'est que le droit à l'avortement, il n'est plus du tout aussi net et aussi protégé depuis une autre décision de la Cour suprême de 1992, qui s'appelle Planned Parenthood, voilà, on va dire ça, dans laquelle on a cru que le droit allait être éliminé. Et le juge Kennedy et la Justice O'Connor ont décidé de sauver le droit. Simplement, ils ont changé la charge de la preuve. Alors que c'était un droit fondamental et que la personne à qui on refusait un avortement n'avait rien à prouver, c'est dorénavant à la femme de prouver que les réglementations prises par les États constituent un fardeau trop important, undue burden, et que donc c'est contraire à la Constitution. Les États, et en particulier les États du Sud, parce que ça n'a pas commencé en 2017, hein, ça a commencé dès 1992 avec une autre vague après 2010, après que les Républicains aient pris beaucoup de majorité dans les États. Les Républicains ont bien compris, et donc ils ont essayé, partout, de voter des nouvelles lois en se disant ce sera contesté par les progressistes, mais peut-être on va pouvoir gagner un certain nombre de choses, une autorisation parentale, l'autorisation du même mari, un délai de réflexion de 48 heures, etc. Donc il y a eu, après 92 et en 2011, des dizaines de restrictions au droit à l'avortement. Et à partir du moment où la Cour suprême ne prenait pas d'affaires, ben ça restait au niveau de l'État. C'est-à-dire la juridiction fédérale avait dit oui, non, et dans un État, c'était appliqué de cette façon. Et là, avant même qu'il y ait l'Alabama et ces deux lois, qui vont sans doute arriver à la Cour suprême, il y a vraiment une division de l'Amérique en deux zones. Il y a la côte ouest, hein, Californie, Oregon, Washington, où il n'y a pratiquement pas de restrictions, il y en a zéro en Californie. La côte est, hein, le nord-est. Et puis tout le milieu, où c'est devenu déjà maintenant pratiquement impossible d'obtenir un avortement. C'est-à-dire dans un État, il y aura une clinique. Alors, certains disent, bon, mais on peut aller dans l'État d'après. Sauf que quand on regarde la carte des restrictions à l'avortement, si vous êtes dans l'Alabama, tous les États autour sont dans la même situation. Donc il faut que les personnes qui, par définition, sont pauvres, puissent prendre un avion pour aller à l'autre bout du pays chercher un avortement en Californie, à New York. Et ça ne se passe pas. Ce qui fait que ce que font les conservateurs, y compris les religieux, les évangéliques, etc., c'est d'agir contre les femmes et contre les femmes pauvres. Ils se gardent bien de le dire. Hein, ils sont là, le droit à la vie, etc. Mais dans les faits, et je répète, c'est déjà la situation actuelle, c'est ce qui se passe.
Est-ce qu'il est possible, vous dites que cette question va se retrouver à la Cour suprême, est-ce que la Cour suprême, on peut l'imaginer, revenir du coup sur la décision de Roe v. Wade de 73?
Alors, si on juge par ce qui s'est passé jusqu'ici, elle va continuer à grignoter. C'est-à-dire que, admettons que ça soit la loi de l'Alabama qui arrive devant la Cour, elle va peut-être considérer que le fait que l'avortement est même interdit en cas de viol et d'inceste, ça, c'est une atteinte à la Constitution. Et donc, faire tomber un pan de la loi. Elle va peut-être s'interroger aussi sur le délai de 6 semaines. À 6 semaines, la plupart des femmes ne savent pas qu'elles sont enceintes. Et puis, il y a un problème philosophique qui est, ou bien on croit qu'il y a une vie humaine dès la conception, et dans ce cas-là, même 6 semaines, c'est un meurtre. Donc il y a tout un tas de choses. Beaucoup va dépendre du Chief Justice, donc du président de la Cour. Son nom est John Roberts. Il a été nommé par W. Bush. C'est un conservateur. Mais c'est un conservateur qui est tiraillé entre, d'un côté, ses opinions conservatrices et de l'autre, le fait qu'il a bien compris que la légitimité de la Cour dépendait de l'acceptation des décisions. C'est-à-dire, si, en profitant du fait que les conservateurs, les républicains, sont 5, donc une majorité à la Cour, ils éliminaient complètement le droit à l'avortement, c'est un tollé dans le pays. Ce n'est pas tout à fait la guerre civile, parce que les États-Unis, jusqu'ici, sont plutôt, ils acceptent plutôt les décisions, mais ça veut dire une grave crise constitutionnelle. Donc, mon avis, c'est que le Chief Justice va faire tout son possible pour peut-être inciter ses petits camarades à ne pas prendre les affaires, pour que ça reste au niveau des cours d'appel régionales, ou si il ne peut pas les empêcher, puisqu'ils sont 4 sans lui, à pouvoir accepter l'affaire. S'il ne peut pas les empêcher, essayer de diluer complètement la décision, et comme a priori, la décision majoritaire sera contre l'avortement, c'est-à-dire dans son camp, c'est lui qui choisit, qui rédige l'opinion, et dans ce cas-là, il se choisirait pour la rédiger, et il la rédigerait de façon aussi étroite que possible pour minimiser les conséquences. Vous voyez, c'est un peu Game of Thrones, hein. C'est compliqué parce que c'est juridique, juridictionnel, mais c'est quand même, comme partout aux États-Unis, des rapports de force, du lobbying, du pouvoir, etc., avec l'idée qu'il faut rester un petit peu acceptable pour une majorité de l'opinion publique.
Ce qui est fou, c'est de se dire que, alors qu'on parle normalement de questions juridiques, légales, très précises, très encadrées, on en revient à des débats très passionnels, et finalement à des lectures d'un texte fondateur des États-Unis qui est la Constitution, finalement. On en est à des... c'est quelque part des débats très
philosophiques
ont des répercussions extrêmement concrètes derrière.
C'est inévitable parce que la Constitution est très ancienne, 1787, et elle a été rédigée en termes très larges. Donc, il incombe aux juridictions d'interpréter ces textes. Et lorsqu'on interprète un texte technique sur les conditions pour créer une société anonyme, bon, la marge de manœuvre idéologique est petite. À partir du moment où on regarde dans le texte de la Constitution, donc qui est très bref, qui ne donne pas beaucoup de détails, et qu'on essaie d'en déduire, est-ce qu'il y a un droit à l'avortement ? Qu'est-ce que cela veut dire la liberté ? Qu'est-ce que cela veut dire la protection égale pour toutes ? La part personnelle et donc la part idéologique qui est inévitable, même si le juge est de bonne foi, ce qui n'est peut-être pas le cas de tous les juges qui ont été nommés grâce à Trump. Mais bon, même un juge de bonne foi, le juge Scalia, qui est mort en 2016, disait lui-même, bon, moi, il se trouve que je suis catholique. Ben, bien sûr, ça infléchit ma vision des choses. Je fais en sorte d'essayer d'être impartial dans mes jugements, mais sur ces questions philosophiques, je me rends bien compte que ce que je suis, mon vécu, a une influence. Autre exemple, Sotomayor, la première juge hispanique qui a été nommée par Obama. Ben Obama le disait aussi. Moi, j'ai vécu pauvre, genre d'une minorité, Puerto Rico. Lorsque je suis allée à l'université, c'est parce que j'étais bonne, mais j'ai profité des dispositifs d'affirmative action. Tout ceci, bien sûr, ça infléchit ma façon de raisonner et je serais plus encline à protéger les faibles que quelqu'un qui a vécu, comme Kavanaugh, dans l'aisance la plus totale et les privilèges.
Pour en revenir au sujet de l'IVG et ramener la question dans une problématique française, je ne saurais que trop vous inviter, si ça n'est pas déjà fait, à écouter le reportage d'Anouk Perry, l'IVG au quotidien, que vous retrouverez dans les récents épisodes de Programme B. Merci à Anne Desine pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Laurent Mess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter pour nous parler et à demain pour un nouvel épisode.
Binge.
Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi ? Qui étaient ces disparus ? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée ? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.